Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
On se fait allumer hein, par mes auditeurs, je peux vous assurer. Bien, on traite de soviéto-libéraux. Non, brochette de soviéto, j'aimerais. Gaëlle Mac, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, avec à la une arrêtée d'emmerder les Français. Vous savez bien à qui ça fait référence. C'est au sujet de la complexification administrative, la bureaucratie, les réglementations, les normes. C'est vrai, plus que jamais, écrit Challenge en une cette semaine. Patrick Bertrand, directeur général... Opération Dolnest, le family office de Jean-Michel Aulas et Léonidas Kalogiropoulos, PDG de médiation et arguments, délégué général de l'Open Internet Project, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Ah oui, oui, il y a des réactions. Hein. C'est le plateau des pleurnichards ce matin, m'écrit-on.
Non,
voilà.
Ah bon,
vive, vive la concurrence et la mondialisation.
Ouais, ouais. C'est ça.
Voilà.
La concurrence, oui, vertueuse et sur l'innovation.
Bon, il y a quelqu'un qui me raconte qu'il a encore des pyjamas bio, coton, Monoprix qui ont duré 10 ans.
Ah voilà.
Voilà.
Bravo.
C'est très bien.
Bon. Bah, c'est pas si critique.
On n'a pas critiqué
Clément
ça.
M'écrit, ouais. De toute façon, les vêtements, qu'ils soient vendus en boutique ou sur Internet, ils viennent tous de Chine, ils sont simplement moins chers sur le net. Bon.
C'est faux pour une partie des marques, parce qu'il y a beaucoup de pays du Maghreb qui sont producteurs.
Ibrahim écrit, entièrement d'accord avec vos invités, le libéralisme doit plutôt promouvoir la concurrence vertueuse pour favoriser l'innovation.
Merci à lui.
Absolument. Et on s'est compris.
Voilà. Il y a plein de... Je lis avant quand même ce que vous m'écrivez, parce que j'ai un peu de tout quand même. Hein. Ils me sont... Bon, voilà. Bon, il y en a d'autres. Hein.
J'en suis sûr.
Non, mais
c'est un débat qui est important.
Belle brochette de soviéto libéraux.
Bon, eh bien, bon. Si on est soviétique, dès lors que l'on apporte des nuances ou du discernement dans le libéralisme...
Bon. Il s'appelle la Pravda, lui, il écrit souvent.
Bon, eh bien, il s'est bien nommé.
Soviéto-libéraux, c'est amusant, une forme de...
Enfin, pardon, je voudrais quand même dire à ceux qui sont des absolutistes du libéralisme, il faudrait quand même qu'ils intègrent dans leur logiciel qu'il y a énormément d'entreprises, et elles sont assez performantes en Chine, dans un régime communiste. Ça veut quand même dire que l'on est capable d'avoir des entrepreneurs et d'avoir une dynamique d'innovation dans un régime qui n'est pas forcément le modèle du libéralisme qu'ils ont en tête. Donc peut-être que l'on peut faire évoluer le logiciel sans tout de suite commencer à pousser des prix.
Avant de faire réagir Gaël sur la dépense sociale, et puis on évoquera ensuite... Oui, là, un mot quand même sur le monde universitaire. Et le DMA. Mmh. Farloum écrit, protectionnisme, concurrence déloyale, vilain consommateur, que d'angélisme, ça manque de Jean-Marc Daniel Touch. Voilà, pour représenter la diversité sur le plateau.
Bon, bon. Eh bien, on le refera avec Jean-Marc Daniel, et avec joie d'ailleurs, toujours.
N'hésitez pas à nous insulter, c'est très agréable. oui, réformer l'assurance chômage quand le ciel s'assombrit, Gaël Mac, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on s'est dit juste avant ?
Non, mais bon, la concrétisation des pires craintes des syndicats qui avaient quand même dit que c'était une tuerie cette réforme quand elle avait eu lieu en 2021.
Laquelle année là ?
La réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire notamment le recalcul de l'allocation à laquelle on a droit, le durcissement des règles pour rentrer dedans, etc. Bon.
La réduction maintenant de la durée d'année.
Voilà, et l'allocation dégressive, etc. Et ils avaient dit, oui, ben voilà, on nous met cette réforme en place, on nous dit que ça va être plus souple dans les temps durs et plus dur dans les temps faciles. Vous allez voir, une fois qu'on aura mis ça en place, et bien de toute manière, les conseillers ne sont pas les payeurs. Voilà. Et c'est malheureusement un peu ce qui a l'air de se passer. C'est-à-dire que, alors que le chômage se durcit, et bien pourtant, on n'est pas en train d'assouplir parce que...
On n'a pas passé les seuils qui, dans la loi précédente, justifiaient qu'il y ait un assouplissement.
On n'a pas passé les seuils, mais on voit bien, je veux dire, il y avait quand même dans cette réforme, il n'y avait pas simplement une volonté de se rapprocher du plein emploi et de pousser plus les demandeurs d'emploi en estimant que peut-être c'était parce qu'ils avaient des allocations trop généreuses qu'ils ne travaillaient pas suffisamment. il y avait aussi une considération budgétaire, claire et nette.
Non, mais bien sûr.
Je veux dire, l'idée était quand même de faire des économies. Et là, on est exactement dans ce contexte, c'est-à-dire qu'on nous dit, il y a 10 milliards d'économies, tiens, ne pourrait-on pas en prendre encore un peu dans l'assurance chômage ? Finalement, je remarque que c'est la dépense sociale la seule dont on nous parle, la seule dépense sociale sur laquelle on est en train de dire qu'on va faire des économies. Bon, je veux dire, pour des gens qui ont eu deux réformes en 2021 et 2023, et par ailleurs, ce dont parlait Léonidas sur le fait qu'il y a un certain seuil où finalement le travail ne rapporte pas forcément beaucoup plus que l'allocation chômage,
je m'en fais perdre.
C'est quand même dû en bonne partie au fait qu'il y a une suppression des cotisations sociales sur les très bas salaires et que donc quand on augmente un petit peu, etc., tout à coup on se retrouve dans une espèce de mouvement fiscal où il y a un problème de pente.
Mais pardon, ça c'est un point qui est important, parce que ça ne veut pas dire que c'est trop généreux les aides sociales et donc ça dissuade le travail. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de réglage. Et c'est des problèmes de réglage qui font qu'effectivement on commence à cotiser, on perd parallèlement les aides que l'on avait, donc on perd presque à travailler plus. Et là, je pense que c'est une question de réglage et je pense qu'on sera probablement d'accord pour se dire que quand on a presque des dysfonctionnements de cette nature, c'est presque du bon sens de les rétablir.
Mais je rappelle qu'au départ, en 2017, dans sa réforme, Emmanuel Macron disait qu'il allait aussi faire un malus sur les contrats courts, parce que c'est dans les deux sens, cette histoire de contrats courts.
Ça a été fait, ce malus sur les contrats courts.
Il est très peu appliqué dans peu de secteurs qui ne sont pas ceux qui utilisent le plus les contrats courts.
C'était l'un des éléments. Notamment le secteur public.
C'était l'un des éléments.
Le secteur public est au-dessus du secteur privé sur les contrats courts.
Les dernières estimations, justement, des réformes de l'assurance chômage considèrent que c'est l'un des points sur lesquels on a eu des résultats plutôt positifs. Oui. Parce que la dégradation de la durée des contrats a quand même été un peu enrayée. Mais on avance.
Juste très rapidement, moi je suis toujours un peu mal à l'aise quand les sujets sont abordés pas sur ce plateau, mais globalement par le gouvernement, uniquement sur l'aspect financier. Donc, si on veut faire des économies, il faut voir aussi, de l'autre côté, les engagements que l'on prend pour mettre en œuvre ce dispositif. Et effectivement, si on veut pousser les gens à aller chercher du travail, il faut réduire, surtout quand la croissance économique est bonne, réduire la durée d'indemnisation, mais à côté, faire le travail d'insertion. Et sur ce plan-là, moi, je considère que le gouvernement a fait un excellent travail, continue, ça accélère. J'en ai des preuves tous les jours.
Vous parlez de France
j'ai
Travail.
L'occasion, voilà, j'ai l'occasion d'accompagner des start-up qui travaille avec France Travail, start-up dédiée à l'insertion, il y a un travail tout à fait remarquable. Donc oui, c'est un ensemble, mais cette approche, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, cette approche qui consiste à être uniquement monétaire dans les sujets à traiter ne me convient pas. Et d'un certain point de vue, je pense que le gouvernement fait assez mal sa communication parce qu'il laisse dominer le sujet purement monétaire et financier. Alors qu'il y a des choses qui sont faites en parallèle.
Je trouve ça très important ce que dit Patrick. Juste une analyse, simplement parce qu'effectivement, quand on accompagne quelqu'un qui est en réinsertion, c'est pas uniquement pour solde tout compte lui donner un chèque.
Exactement.
C'est un accompagnement, et j'insiste sur ce point parce que c'est un des sujets de désaccord avec d'autres libéraux sur d'autres sujets, sur le revenu universel sans condition. Le fait de suivre les demandeurs d'emploi, de les accompagner, de leur permettre de remettre le pied à l'étrier, c'est un accompagnement.
Voilà.
Et pour beaucoup de ceux qui veulent les allocations sans condition, c'est pour dire on arrête l'accompagnement. Alors ça serait dramatique.
Exact.
Et justement là, effectivement, c'est pas un chèque pour solde de tout compte.
Vous avez raison de l'évoquer. Il a même été évoqué le fait, là, c'est pas de l'économie, qu'on allait renforcer le nombre de personnes à France Travail pour qu'ils puissent suivre pas plus de mémoire de 60 à 70 personnes en recherche d'emploi pour justement avoir ce travail d'accompagnement
individuel. C'est pas forcément un sujet qui peut créer un débat particulier. Moi, ça m'a pas choqué que Bruno Le Maire passe par décret d'annulation de crédit. C'est prévu dans la loi, c'est possible. Bon, 10 milliards, c'est un gros montant par rapport à ce qu'on fait habituellement. Vous avez été choqué par ça ?
Non, enfin que le
Parlement...
On n'est
pas obligé de débattre. Hein,
mais que le Parlement se dise, ça mérite au moins qu'on l'auditionne, enfin, ça me semble être la règle normale des choses.
C'est Bruno Coquerel qui a lancé un peu politique.
Mais bon, en même temps, si on veut économiser 10 milliards rapidement,
il n'y a pas d'autre solution.
Oui, enfin, surtout dans le contexte parlementaire actuel.
Mais on présente les choses comme absolument extraordinaires. Regardons un petit peu les proportions. important. 10 milliards, c'est à peine 2% du budget de l'État. C'est à peu près 10% du déficit budgétaire. Il y a n'importe quelle entreprise, si elle a un déficit de 100, et on vient proposer au board 8 à 10% d'économie pour réduire le déficit de 8 à 10%, on dit au revoir circuler. On a l'impression que c'est extraordinaire.
Eh ben vous allez dire ça aux chercheurs à qui on a pris 904 millions d'euros sur 1 milliard de budget.
Justement, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Le sujet de fond, c'est l'inefficience de la dépense publique. Et donc, on pense qu'on fait des économies. Et là encore, où est l'autre volet de l'efficience de la dépense publique, l'évaluation de la dépense publique.
Là, c'est de l'urgence absolue. Vous vous rendez bien compte.
Bien sûr. Bon. Après, il y a le court terme et le moyen terme. Mais ce que vous avez dit sur l'enseignement et la recherche, c'est symptomatique. Allez, hop, on coupe le moyen terme pour pouvoir faire des économies immédiates. Tiens, c'est curieux. On coupe sur le moyen terme alors qu'il y a des économies à court terme qui peuvent être faites sur des activités court-termistes. C'est très étonnant.
Vous avez le sentiment qu'on a sacrifié des investissements d'avenir dans les 10 milliards d'euros? Parce que là, il y a les 904 millions pour la recherche. Objectivement, ils avaient un budget qui augmentait de 1 milliard d'euros, il augmente de 300 millions aujourd'hui. Et quand on sait dans quelle misère, parfois, vivent les universités, mais alors, chacun aura un bon argument pour dire qu'il ne fallait pas couper chez lui.
Bien sûr. Mais Nicolas, c'est surtout la recherche. Sur les 900 millions, je crois que c'est 450 ou 500 millions. Les universités aussi, mais c'est pour 100 millions, je crois, de mémoire. Ça n'enlève rien.
Il y a eu pas mal d'émotions. Ah, ça y est, c'est la contre-révolution verte. On sacrifie les investissements d'avenir. C'est votre avis ou vous considérez que il fallait qu'ils en trouvent à droite, à gauche? De toute façon, on a ratissé, fait les fonds de miroir.
Je crains qu'il y ait dans cette histoire un peu de dissémination institutionnelle des investissements d'avenir. Les investissements d'avenir ont fait l'objet d'une sorte de sanctuarisation. Et il y a en parallèle tout ce qui concerne la recherche traditionnellement autour des universités, qui vient de faire l'objet de ces coupes. Et j'ai le sentiment qu'il y a un peu deux voies qui se concurrencent dans l'appareil d'État et qu'elles sont un peu traitées pas forcément à la même enseigne.
Moi, surtout CNRS et l'Agence nationale de la recherche.
Et l'INSERM.
On dit université, faculté, c'est vrai, mais c'est pas le plus gros morceau.
Il y a un truc qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle ça a été annoncé et ça a été publié aux journaux officiels. Alors là, je me suis dit, waouh, ça a pris moins d'une semaine. Petit sentiment d'urgence à Bercy quand même là.
Dans tous les cas, manifestement la volonté de montrer qu'il y avait une capacité à agir.
Oui, la volonté de montrer.
Une capacité à agir et agir de manière efficace.
Oui, moi je trouve que ça n'a pas été si disséminé que ça et je trouve que les signaux qui sont passés, alors évidemment, c'est l'urgence, il faut trouver de l'argent, donc et il y aura toujours des insatisfaits, c'est sûr.
Bien sûr.
Mais bon, si finalement les trois principaux postes à se retrouver à être la transition énergétique et écologique, l'éducation, 700 millions, et la recherche, je trouve quand même qu'on obère beaucoup de dépenses d'avenir, justement, et de moyen terme. Bon, et qu'il y a d'autres pans de la dépense à laquelle on ne touche pas, certainement pour acheter la paix sociale.
Bien sûr.
Je ne trouve pas que ça se soit donné un très bon signal, et notamment sur des domaines qui étaient soi-disant prioritaires pour le gouvernement Macron. Je pense à l'éducation, dont ils n'ont pas quand même cessé de nous dire que c'était un peu la mère de toutes les batailles. Et également, d'ailleurs, même la recherche, qui est censée être quand même nous placer dans le concert des nations.
Mais l'éducation, c'est le plus gros budget de l'État. Donc la démarche intellectuelle, on la comprend. On regarde là où sont les plus gros budgets, on sait les couper. Mais
après, il y a le social.
C'est bizarre. Sont sorties très récemment des études de comparaison entre les différents pays sur l'éducation, la santé, etc. Tiens, c'est bizarre. En France, globalement, on trouve à peu près 10% de gens qui ne sont pas sur le terrain. Que le budget est le même, inefficience de la dépense publique.
Et on l'a dit mille
au
fois,
lieu de taper
Patrick,
sur le futur, regardons.
On a fait mille fois la comparaison des back-office dans l'administration en France par rapport au même service en Allemagne, c'est juste incroyable.
C'est incroyable.
Et on n'y arrive pas.
C'est 10 points.
Oui, non, mais je sais, on utilise 80% de l'argent de.
Le budget.
Non, c'était l'éducation nationale. C'était. 80% finance la machine, tandis qu'en Allemagne, c'est 49% qui finance la machine. Ce genre de truc. Bon. UBS, que m'écrit Trophée 33. C'est son nom. Notre quantité de travail disponible sur le marché à cause des aides sociales. Tout le monde calcule aujourd'hui et très bien. Résultat, personne n'arrive à recruter et dans tous les secteurs, on marche sur la tête.
Alors, la quantité d'emplois disponibles, avec des tensions sur le marché de l'emploi et ces emplois qui ne sont pas pris, c'est quelque chose qui ne peut pas laisser n'importe quel gouvernement, sans agir. Enfin, c'est, et tous les chefs d'entreprise regardent cette situation quand même en se disant que cette anomalie, il faut la corriger.
Voilà, et quand même sur cette histoire de dépenses publiques, il y a quand même des bizarreries. Par exemple, en janvier, tout à coup, on a mis le permis moto parmi les formations qui étaient possibles dans le compte personnel de formation. Alors que on sait très bien que c'est là qu'il va être sujet aux abus et que finalement le nombre de personnes qui vont avoir vraiment besoin d'un permis moto dans leur exercice professionnel de leur fonction, c'est quand même, on sait que c'est un candidat aux dérives. Et puis ensuite, on arrive 2 mois après et on dit, ah ben on va raboter globalement le compte personnel
de reste à charge, un reste à charge de 10%.
De reste à charge. Est-ce qu'on n'aurait plutôt pu dire non mais finalement le permis moto c'est pas une bonne idée et on va finalement lâcher? Est-ce qu'on n'aurait pas pu regarder où on s'aperçoit très bien que certaines personnes prennent des langues étrangères un peu exotiques qui ne sont pas forcément nécessaires dans leur métier, qui a un certain nombre d'abus? Est-ce qu'on n'aurait pas pu gérer ces abus-là plutôt que raboter pour tout le monde? Bon ben voilà, c'est toujours un peu le problème de l'urgence.
C'est beaucoup plus simple de raboter que
voilà,
de
c'est le problème de l'urgence.
C'était la grande idée de dire qu'il fallait responsabiliser. Donc le DMA mercredi, les géants du numérique. Alors c'est TikTok, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, Chrome, Safari, mais il y a 22 services visés. Je vous donne 2-3 éléments de contenu. Voilà, je vous donne 2-3 éléments de contenu de ce DMA qui est là pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Après, il y a le DSA, mais c'est autre chose. Alors, obligation de rendre les services interopérables. Aujourd'hui, FaceTime, par exemple, ne fonctionne pas avec Teams. Interdiction d'imposer des logiciels comme les navigateurs et les moteurs de recherche. Ça veut dire que sur votre smartphone, un nouvel écran va vous demander normalement quel navigateur vous voulez utiliser. Interdiction désormais de favoriser ses propres services. Aujourd'hui, vous allez sur Google et on vous fait... Vous voulez un billet d'avion, c'est Google Flight qui apparaît. Obligation de permettre à des plateformes concurrentes d'exister. Donc, ne plus avoir que uniquement l'App Store disponible sur l'iPhone d'Apple. Donc, mettre fin aux logiciels préinstallés sur les appareils ou encore consentement obligatoire de l'utilisateur sur le croisement des données réalisées pour envoyer de la pub ciblée. Si cela n'est pas respecté, il y a des amendes prévues pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires et même 20% en cas de récidive. Comment vous vivez? Alors, il y a ceux qui vont vous dire, ah ben voilà, c'est les Américains qui ont tout fabriqué, tout inventé, et puis nous, on réglemente comme d'habitude. Ouais. Oui. Dans quel camp êtes-vous? Moi, j'ai du mal à me faire un avis. Et déjà, un avis pour savoir dans quelle mesure tout ça va être très joliment opérationnel les mercredis.
Oui, mais...
J'imagine que les contournements sont sûrement possibles.
Peut-être, mais il y a un changement majeur, et là, tous les membres de l'association que je dirige, qui est l'Open Internet Project, on est une vingtaine d'acteurs français et européens qui sont des entrepreneurs qui sont confrontés à des problèmes de concurrence. Ce texte est pour eux absolument fondamental, même si ils ont le sentiment qu'il ne va pas assez loin, mais mettons déjà l'accent sur ce qu'il fait. C'est que pour le moment, quand il y avait des abus, il fallait aller devant la commission, introduire une action, et celle la plus emblématique pour laquelle l'OIP a été partie prenante, c'est Google Shopping. 14 ans pour en arriver.
L'OIP, Open Internet Project,
qui est partie prenante. Ça fait 14 ans que l'on attend que on aille au bout de l'affaire. Il y a 2,4 milliards d'amendes qui ont été infligées. Ouais. Le premier euro n'est toujours pas versé parce qu'ils sont en l'appel. Mais vous voyez bien qu'à l'échelle de la dynamique économique du digital, on ne peut pas attendre que l'abus soit commis et aller se plaindre et attendre des années qu'ils soient réparés. Donc, ce texte essentiel du
DMA... C'est la grande idée d'agir en amont et pas en aval.
Absolument. Oui. Donc, il fixe des règles, il désigne ce qu'on appelle des gatekeepers, c'est-à-dire des acteurs qui enferment les utilisateurs dans un ensemble de services, et ils disent, vous devez ouvrir vos plateformes. Eh bien, c'est une règle qui est essentielle, c'est cette règle-là qui va permettre à des acteurs innovants et, des acteurs français ou européens de rentrer sur ces plateformes qui avaient totalement envahi, effectivement, nos ordinateurs et nos terminaux.
Je suis d'accord.
Donc, on est, je pense... Encore une fois, sur l'illustration du fait que la règle va permettre le foisonnement d'entrepreneurs du digital qui, pour le moment, attendent de pouvoir rentrer et qui sont, se voient la route barrée constamment.
Je vous fais réagir, bien sûr, Patrick Vincent, dans un instant. Fleur Pellerin, qui a été en charge du digital à un moment.
Oui, tout à fait. C'est le secrétaire d'État.
Et elle disait, elle expliquait qu'elle-même était utilisatrice de l'iPhone d'Apple. Elle avait absolument parfaitement pris conscience qu'elle était complètement enfermée dans une bien pour sûr. Apple. C'est d'ailleurs mon cas. Mais elle disait, honnêtement, la prison est tellement dorée que moi, j'y suis pas si mal et ça fonctionne très bien. Est-ce que j'ai besoin d'avoir autre chose que l'Apple Pay quand j'ai envie de payer? J'ai pas besoin d'avoir 25 000 applications de paiement. Il y en a une. L'Apple Store, c'est très bien. Il y a tout ce que je veux dedans. Vous voyez, alors là, je me passe, du coup, dans la position du consommateur, pas de la start-up qui essaye de se faire une place sur ce marché, oui. qui n'arrive absolument pas à percer parce que...
Pardonnez-moi, d'où l'importance de se mettre dans la place de la start-up, parce qu'elle a peut-être quelque chose d'innovant que vous ne connaissez pas et que vous ne pourrez jamais connaître si on reste enfermé dans cette prison dorée, et d'où le fait de mettre les entrepreneurs en avant plus que la liberté des acteurs dominants d'exercer leur domination, et d'où la nécessité de mettre les entrepreneurs en premier plutôt que le consommateur.
En tout cas, j'entends chez vous que, en plus, comme vous connaissez cet univers, vous attendez ce texte en vous disant
totalement.
Que c'était une marche en avant.
Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais c'est un pas en avant absolument fondamental. Bon.
Allez-y, Patrick Bertrand.
Le sujet en fait que cela pose, et qui a d'ailleurs été posé en termes de principe par le Digital Service Act qui s'occupait des contenus, c'était de dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pourquoi ce qui est illégal dans la vie physique de tous les jours ne serait pas illégal dans la vie digitale et numérique. D'où le sujet des contenus racistes, etc. Donc ça, c'est le DSA. Et maintenant, même chose. Le DMA, c'est exactement la même chose. En prenant une image très rapide pour que nos auditeurs comprennent. Pour acheter un produit, vous êtes obligé d'aller dans le magasin X parce qu'il n'y en a pas d'autre et c'est là. Vous ne pouvez pas faire autrement que de... Tout le monde considère, y compris l'autorité de la concurrence quand on regarde les décisions qu'elle a prises au cours des dernières années, tout le monde considère que ça n'est pas bon. Et là, tout d'un coup, on découvre qu'on est obligé de passer par des gatekeepers, qu'on est enfermé. Je rappelle sur la transposabilité que ça a déjà été fait pour les télécoms. Et donc, on a l'impression que ça y est, c'est une révolution, qu'on met en cause le développement des entreprises. Non, c'est juste de dire, il y a des règles qui s'exercent dans la vraie vie, eh bien, on les fait en sorte qu'elles s'appliquent dans la vie de tous les jours et la vie numérique. Outre le fait qu'évidemment, il y a l'accès possible à d'autres, etc. Mais je pense que c'est ça que ça pose comme principe général. On a toujours du mal à percevoir l'intérêt de telle ou telle règle. Revenons sur les règles de la vraie vie d'aujourd'hui.
Mais pourquoi vous avez raison, il n'y avait qu'un seul opérateur télécom avant. Maintenant, il y en a plusieurs. Et tout, personne n'imagine qu'on revienne en arrière.
Ce qui se passe en Espagne.
Non, personne n'a la nostalgie des PTT, ça je vous le confirme. Bah, vous dites en Espagne quoi,
Non, même chose. En Espagne, là, il semblerait qu'il y ait des rapprochements entre deux opérateurs télécoms. On dit OK, mais il faut qu'il y ait la possibilité d'un quatrième. Ça, on l'a beaucoup entendu en France. Donc,
on est effectivement en train de revenir sur des points.
Bien sûr. D'ailleurs, je me souviens d'une décision de l'autorité de la concurrence sur le rachat je citerai pas les marques, d'un grand réseau de magasins par un autre grand réseau de magasins. Et ils prenaient en compte que les réseaux de magasins physiques. Mais les défenseurs disent, mais prenez en compte aussi tout ce qui se passe en ligne. Ah oui, c'est vrai. Oui,
mais pardon, pour insister sur ce point, juste remarquer que on est effectivement sur une bataille commerciale. On veut et économique. On veut que nos acteurs digitaux soient capables de développer des innovations et qu'on ait nos propres acteurs. Mais la manière dont un certain nombre de parlementaires ont écrit au président américain aux États-Unis pour dire que l'Europe était en train de mettre des règles protectionnistes et qu'il fallait se défendre d'État à État montre bien qu'il y a une stratégie que l'on a laissé se développer et sur laquelle on a tardé à réagir, qui est effectivement la mise en place de règles minimales pour que la concurrence existe dans ce domaine. Il était temps qu'on le fasse et il était temps aussi, et c'était nécessaire, que ce soit des autorités politiques qui les mettent en œuvre. On voit bien que la réaction politique qu'il y a de l'autre côté de l'Atlantique démontre que derrière ces acteurs, il y a une puissance de frappe d'un pays entier, d'un continent entier, qui est celui des
pratiques
étendantes des États-Unis, qui ont une vision très bizarre du libéralisme à leur profit.
Oui, c'est intéressant de voir que le fil conducteur de notre débat,
ce n'est pas bizarre.
C'est la concurrence loyale.
Absolument.
Et c'est pas le libéralisme, tout le monde
tant
fait
n'importe quoi. Que pour
c'est juste
le
la concurrence
fashion.
Loyale.
On a 4 minutes 30, je vous pose la question, puis je lirai vos réponses. Comment la richesse? Je vous dis ça parce qu'il y a eu un chiffre de l'Observatoire des inégalités. Combien par mois pour une personne seule? Voilà, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Parce que la question a été posée aux téléspectateurs, auditeurs de BFM Business. Ils n'étaient pas vraiment en accord avec le chiffre. Je vous le donne à la fin, le chiffre, bien sûr. Gaëlle, vive la loi pour les femmes. On a eu ce rapport là sur l'égalité homme-femme. Eh bien, la France est en pointe. Donc en fait, un jour, on décide de faire des lois. Il y a eu Copé-Zimmermann, puis il y a eu la loi Rixa en 2021 qui impose de féminiser les organes de direction des entreprises. Et on est très 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 bien placé en fait. Et donc moi, j'aime pas les quotas habituellement, les lois, les coercitions, mais il faut bien reconnaître que dans ce domaine.
Bon, non, mais on n'aime jamais les quotas intellectuellement. Je veux dire, dans un monde idéal, on aimerait que simplement les mérites de chacun soient reconnus à leur juste valeur, que ce soit hommes, femmes, diversité, etc. Et qu'on ait besoin de nul quota et qu'on puisse ainsi juste progresser vers plus d'inclusion et plus de parité.
La bonté du genre humain n'est pas forcément universelle.
Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, de fait, en pratique, le quota est toujours quelque chose qu'on n'aime pas faire. Et évidemment, je veux dire, ça fait râler. Et je pense qu'un certain nombre d'hommes de haut cadre à bon droit ont pu se dire « je suis doublé parce que simplement, je suis doublé par une femme ». Mais le résultat en est qu'on crée une culture. On crée une sorte d'habitude. Je veux dire, quand on crée, par exemple, là, une certaine, pas une parité, mais au moins une meilleure représentation dans un comité de direction pendant 5 ans, 10 ans, eh bien, vous allez. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le CAC 40, il n'y a que deux femmes, si je ne m'abuse.
Comme PDG,
Estelle Heidemann
Catherine McGregor.
Christelle Heidemann et Estelle Brakleanov.
Et Catherine McGregor aussi.
Ah, Catherine McGregor. Donc, il y en a trois. Bon, 3 sur 40, c'est pas exactement paritaire. Mais si pendant 10, 15 ans, nous avons des femmes régulièrement dans les conseils d'administration et dans les comités de direction, eh bien, vous allez voir que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous allons avoir 6 femmes, 10 femmes, 15 femmes dans le CAC 40. Et ce qu'on reproche au départ, qui est de dire, en fait, on pousse des femmes qui n'ont. Au départ, évidemment, il y avait des cumulards, il y avait trop peu de femmes. Donc, ils se retrouvaient avec 3, 4 femmes, 5 femmes par conseil d'administration qui avaient 3, 4, 5 mandats, voilà. Et peut-être que certaines femmes, on les aurait pas choisies si elles avaient été un homme et qu'elles avaient eu ce parcours. Eh bien, 10 ans plus tard, ce n'est pas le cas.
Oui.
Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on a créé toute une... tout un mouvement, et que donc désormais, je veux dire, elles ont complètement leur place, quota ou pas. Voilà.
Je vais bien
bon, un mot, parce qu'on a vraiment terminé. Non, mais
très très rapidement, oui, parce que ça donne un vrai mouvement, mais là encore, on n'a pas pris le sujet dans sa globalité, parce que c'est le sujet de la pluralité. Premier élément, enfin, c'est arrivé l'index égalité homme-femme, mais au début, ça concernait que les entreprises, l'employeur État, il n'y avait aucune règle dans ce domaine. Et puis l'autre sujet, c'est qu'il ne faut pas oublier de travailler.
Ce qui n'est plus le cas maintenant, ils viennent de mettre en place.
Mais après les entreprises, c'est d'abord vous les entreprises.
Après tardivement.
Et puis après, le deuxième sujet, long terme, c'est comment fait-on pour attirer de plus en plus de jeunes filles et de femmes dans des filières sur lesquelles on est en manque de compétences. Pas parce que les femmes ne sont pas capables d'eux, c'est juste que le système éducatif... Et là, rien, j'entends rien.
Il y avait un grand papier dans la presse du week-end, justement, sur la difficulté à attirer des femmes dans les écoles d'ingénieurs. Mais il y a un moment où vous n'allez pas les contraindre à faire des métiers scientifiques.
Non, mais attends, il y a un sujet culturel quand même.
Oui, oui.
On a tous vécu, et le corps professeur est remarquable, de professeurs disant aux filles, non, mais ça,
oui,
c'est
pas pour toi. On ne va pas les contraindre, sans aucun doute. Mais
notre économie, globalement, n'a que à y gagner. C'est pas uniquement que...
Certains... Je veux dire, quand on a reçu un afflux de réfugiés ukrainiens, on s'est aperçu avec surprise qu'il y avait autant de filles qui faisait des mathématiques de haut niveau et qui aimait les mathématiques et les sciences. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un petit problème dans la manière dont...
On s'est rendu compte que les petits Ukrainiens étaient très bons élèves. On a fini.
En sciences et en maths.
Arrêtez d'emmerder les Français.
Bah justement,
3860 euros par mois pour une personne seule. Là commence la richesse d'après l'Observatoire des inégalités.
5007 avec un enfant, un couple.
Merci.
Gaël
Mac, Patrick Bertrand, Leonidas Kalogeropoulos et la complexité administrative, les réglementations, les normes à l'une des challenges de cette semaine. Rendez-vous demain 9h.